J'ai parlé ces derniers jours de l'émotion qui naissait parfois de la beauté. Et également des beautés qui n'arrivaient pas à provoquer chez moi quelque émotion que ce soit. Et j'ai parlé aussi, peut-être plus encore, de ce passage du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, dans lequel le renard, parlant au Petit Prince, lui explique que c'est grâce à l'amour qu'il lui porte qu'il arrivera à aimer le monde. Et il lui explique plus précisément que le renard aime le Petit Prince. Et du coup, lorsqu'il verra les blés, le souvenir de la couleur de la chevelure, de la blondeur de la chevelure du Petit Prince, lui fera aimer la blondeur des blés. Et ainsi, grâce au souvenir du Petit Prince, le renard aimera les blés, et de là il aimera le monde. Et je partageais assez fortement cette image de Saint-Exupéry. C'est l'amour des êtres qui nous fait aimer souvent les choses, qui nous fait aimer le monde, et c'est l'amour qui nous rend le monde habité. Et voilà qu'à cette pensée, la blogueuse Frog, avec toute l'émotion qu'elle sait traduire, répond que non. Dans un très bel article, elle essaye au contraire d'expliquer en quoi les paysages, que je mettais au rang de ces choses incapables de produire chez moi de l'émotion, elle explique en quoi les paysages l'émeuvent profondément. Et elle explique que pour être émue par les paysages, elle n'a aucun besoin d'aimer un être, même si elle aime. Que la révélation du paysage, sa simple présence, suffise, et qu'elle voit devant un paysage le monde habité. Et cette pensée me touche d'autant plus que c'est exactement ce que me disait quelques heures auparavant Katia. L'aimer m'expliquait qu'elle non plus n'a pas besoin de la médiation de l'amour pour quelqu'un pour aimer le monde. L'amour du monde s'impose à elle. Et ainsi, Frog et Katia aiment le monde indépendamment de l'amour qu'elles portent aux êtres. Voit le monde comme habité, y voit Dieu. Elles n'ont pas besoin, elles, de portes, comme j'en ai, aujourd'hui, encore peut-être, besoin. Et il en découle un rapport au temps qui est totalement différent. Ce qui m'émeut radicalement, comme l'avait déjà bien compris Joséphine, comme Frog le comprend parfaitement et l'exprime parfaitement, ce qui m'émeut, c'est toujours en fait le rapport au temps. Ce qui m'émeut dans les choses, ce qui m'émeut dans les êtres, c'est leur fluidité, c'est leur caractère éphémère, c'est leur fugacité. Si j'aime les visages, c'est parce que je sais qu'ils vont disparaître. Si j'aime la fleur et sa fragilité, c'est parce que je sens qu'elle n'est pas éternelle. Ce qui provoque chez moi l'émotion a toujours partie liée au temps et à la perception de sa fugacité. Et au bout du compte, donc, ce qui m'émeut dans les choses, c'est toujours, peu ou prou, ma propre disparition, ma propre mort. Je suis ému par les choses qui me rappellent que je suis mortel et que donc, d'une certaine façon, il faut en profiter. C'est ma propre mort qui m'émeut. Et pour celle, puisqu'en l'occurrence il s'agit de femmes, qui perçoivent autrement les choses, le rapport au temps est différent. Katia n'est pas pressée. Mais je présume que Frog non plus. Moi, je le suis tout le temps. D'une certaine façon, je vis ma vie comme si j'avais un couteau sous la gorge. Je n'ai pas l'éternité devant moi. Elles l'ont. Ou du moins en partie. Ou du moins infiniment plus que moi. Et le fait de percevoir cette différence de perception, qui est ce à quoi m'a conduit en fait la lecture de l'article de Frog, est touchant. Voilà. Encore une fois, cette réflexion n'est pas terminée, mais à l'avance. Bonne journée.